Après des heures d'intenses recherches, l'enquête a permis d'identifier un suspect qui a été neutralisé.
Cette violence qui semble de plus en plus aléatoire, comme si c'était anodin.
Le portrait de la situation actuelle est vraiment encourageant.
Bonne fin de journée, tout le monde. Un troisième meurtre en moins de 24 heures a secoué la grande région métropolitaine de Montréal hier soir. Cette fois-ci, c'est un jeune d'une vingtaine d'années, apparemment sans histoire, qui a été tué en pleine rue à Laval. Un seul homme serait l'auteur de ces trois homicides et il a été abattu, lui, ce matin, par le groupe tactique d'intervention du SPVM. On aura d'ailleurs un spécialiste avec nous là, pour parler de cette intervention dans un moment. C'est bien sûr un dénouement qui apporte un soulagement pour certains, mais un sentiment quand même d'insécurité plane toujours pour de nombreux résidents. Les autorités politiques et policières ont tenu à rassurer la population aujourd'hui. Voici d'ailleurs là-dessus le résumé de mon collègue Louis-Philippe Bourdeau.
On se trouve tout près du Motel Pierre dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal. C'est ici jeudi matin qu'un homme de 26 ans a été abattu par les policiers. Selon les forces policières, l'individu était armé. Des coups de feu ont été tirés et son décès a été constaté sur les lieux.
Et votre réaction en voyant la scène en sortant, ça a été quoi par contre?
Il y a un dispositif assez important, ça, assez impressionnant.
Et les policiers vous ont demandé de témoigner?
Juste demander les informations, à l'identité, voilà, c'est tout.
Because it's not first time I see something big here. No, I be worried a bit.
Yeah.
Because it's not safe to just walk in the street and you get shot, you know.
L'homme était le principal suspect de l'enquête sur les trois meurtres commis dans la grande région métropolitaine en moins de 24 heures. Le plus récent drame, un homme d'une vingtaine d'années tué en pleine rue mercredi soir à Laval, alors qu'il se promenait en planche à roulettes. Tout indique que le tueur présumé n'avait aucun lien avec les trois victimes ni avec le crime organisé. Connu des policiers, il souffrait aussi de graves problèmes de santé mentale et l'enquête va permettre de déterminer si ces troubles psychologiques ont joué un rôle dans ces trois tragédies.
Les meurtres commis depuis avant-hier nous ont tous touchés en tant que policiers, en tant que citoyens, en tant que protecteurs de nos familles. Le SPVM est conscient de leur impact sur le sentiment de sécurité de la population montréalaise et ça a été au cœur de nos préoccupations au cours des 36 dernières heures. Différentes mesures de sécurisation des quartiers ont été mises en place dès le premier événement et soyez certains que nous nous engageons à poursuivre ces activités au cours des prochains jours.
C'est maintenant la Sûreté du Québec qui va mener l'enquête sur les trois meurtres. Et sur Twitter, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a demandé à la population de faire confiance aux autorités dans un objectif commun, celui d'assurer la sécurité de la population. Ces trois meurtres et cette intervention policière coïncident avec l'annonce d'un nouvel investissement de la part du gouvernement fédéral de plus de 40 millions de dollars pour financer des activités de prévention et d'intervention liées aux armes à feu, mais aussi aux gangs de rue.
De voir aussi cette violence qui semble de plus en plus aléatoire. On l'a vu au cours des derniers jours, on l'a vu auparavant, comme si c'était anodin. Et c'est assez. C'est assez.
Plus de 40 millions de dollars qu'on vient de transférer à le gouvernement de Québec avait une vision, avait un but simple. Et cette but est d'arrêter la violence avant de commencer.
On parle de jeunes 16-35 ans, les jeunes qui sont malheureusement marginalisés, criminalisés. Il faut vraiment être en mesure de leur offrir des opportunités réelles pour qu'ils aient des choix.
Et là, maintenant que le gouvernement fédéral a pris ses responsabilités, nous attendons de la part du gouvernement du Québec et de Montréal qu'ils prennent leurs responsabilités.
Une enquête du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, est aussi en cours. Ça va permettre de déterminer si les policiers qui sont intervenus ce matin au Motel Pierre ont bien fait leur travail.
C'est une opération à très haut risque qui a été donc menée par le groupe tactique d'intervention du service de police de la Ville de Montréal. On en parle avec l'expert en intervention tactique, ex de la Sûreté du Québec, Luc Blouin. Bonsoir, M. Blouin.
Bonsoir.
Alors, comment on prépare une opération comme celle-là? Parce qu'on dit que c'était quand même à haut risque, parce qu'on le savait armé, là.
Exactement. L'individu a fait... il est suspecté d'avoir fait trois meurtres dans les 36 dernières heures. Mm-hmm. Donc, puis il est armé, évidemment. Donc, les policiers pouvaient craindre pour leur sécurité ou la sécurité des gens aux environs.
Ce qui fait que cette opération-là est à haut risque, puis il faut s'assurer justement de la sécurité des gens autour. Comment on fait ça?
Évidemment, dépendamment du contexte, des mm-hmm. informations que les policiers avaient à ce moment-là, mais assurément qu'il y avait comme un... On va parler d'un périmètre autour du... de la chambre d'hôtel. Mm-hmm. Et les policiers du groupe d'intervention devaient se préparer pour faire une perquisition au niveau de la chambre. Puis là, bien, il y a des vérifications qui sont faites à savoir est-ce qu'on est capable d'avoir le plan à l'intérieur, est-ce qu'il est seul. C'est des informations que les enquêteurs, normalement, nous fournissent.
Et quand on sait ou on doute que le suspect a des problèmes de santé mentale, qu'est-ce que ça vient ajouter dans l'intervention?
C'est sûr que c'est quelqu'un qui est très imprévisible. Donc, les policiers devaient sûrement avoir pris des mesures en fonction du fait qu'il pouvait arriver n'importe quoi. Puis on l'a vu ce matin, lorsqu'ils sont approchés pour faire la perquisition, il y a eu une confrontation, puis finalement, il y a eu des coups de feu tirés.
On dit que les policiers avaient localisé l'individu des heures avant l'intervention. Pourquoi attendre?
C'est ça. Bien, comme je l'expliquais tantôt, il y a assurément un périmètre qui a été pris de façon à ce qu'il ne puisse pas se déplacer de cet endroit-là. Puis pendant ce temps-là, l'équipe qui devait faire la perquisition se préparait. Donc, faire des plans. Les gens peuvent croire ou non, mais les membres des groupes d'intervention, normalement, sont très structurés, très encadrés, puis ils préparent le perquisition de façon à ce que ce soit très sécuritaire pour tout le monde, autant pour le suspect qu'on va arrêter que pour les membres qui vont être utilisés pour faire la perquisition. Donc, il y a un certain temps, un délai de préparation, puis ensuite, bien, à ce moment-là, les gens s'approchent, puis ils vont pour la perquisition.
À partir du moment qu'on sait qu'il y a un individu qui court, qui a commis plus d'un meurtre, là, c'était un troisième... est-ce que l'équipe d'intervention est en stand-by 24 heures sur 24?
Bien, je vous dirais probablement que oui. Je peux pas, parce que je ne suis pas membre du SPVM présentement, mais à la Sûreté, des interventions de ce type-là, assurément que toutes les escouades étaient on et préparées au fait que si on trouvait l'individu, bien là, il fallait que les gens soient prêts dans un laps de temps assez restreint. Parce que sinon, si on a à déplacer tout le monde, les gens ne restent pas tous au même endroit. Ça étire un peu l'intervention. Puis là, bien, on ne peut pas savoir ce que la personne en question va faire.
Bon. Décès d'un homme, donc abattu par des forces policières. Automatiquement, le BEI arrive dans
le
portrait.
C'est un automatisme.
C'est quoi la suite des choses?
Bien, la suite des choses, c'est que ces policiers-là vont avoir à rencontrer les enquêteurs du BEI pour décrire un peu l'intervention. Et à la Sûreté, ce qui arrivait à nous autres, c'est que les gens qui étaient... impliqué dans une fusillade, bien, il y avait à rencontrer un psychologue par après pour s'assurer que les gens vivaient bien avec cette situation-là, parce que c'est quand même le décès d'un homme. Mm-hmm. Puis même si on est policier, on n'est pas prêt nécessairement à vivre ça.
Ça peut être un choc.
Ça peut être un choc assez violent, oui.
Même si c'est des policiers qui ont été formés. Merci beaucoup, M. Blouin, d'avoir été avec nous ce soir.
Ça me fait plaisir.
Faisons maintenant le point sur la COVID. La septième vague n'est toujours pas derrière nous, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Tous les indicateurs en ce moment sont à la baisse. C'est ce qu'a dit le directeur national de la Santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, cet après-midi dans son point de presse qu'a suivi très attentivement ma collègue Fanny Lachance-Paquette, qu'on va aller retrouver. Salut, Fanny.
Salut, Michel.
Malgré, il y a quand même pas mal de cas, là, 1389 cas qui ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Puis ça, c'est pas tous les cas là, réels. On serait sorti du pic de cette septième vague.
Oui, c'est ce que dit aujourd'hui le Dr Luc Boileau, que la situation actuelle, elle était très encourageante au Québec. Et ça, bien, c'est malgré le fait qu'on ait appris dans les dernières données du gouvernement du Québec aujourd'hui qu'il y avait eu 16 000 décès liés à la pandémie. Depuis le début, en fait, de la pandémie liée à la COVID-19, seulement dans les 24 dernières heures, Michel, il y a eu quand même 18 personnes qui sont mortes à la suite de la maladie. Mais là, on apprend qu'il y a un peu moins d'hospitalisations ces jours-ci, que c'est le statu quo à peu près aux soins intensifs. Alors, ce sont des données qui font dire au Dr Boileau que ça s'améliore. Et ce qu'on a martelé aujourd'hui, bien, c'est l'importance, encore une fois, de la vaccination, d'aller chercher sa dose de rappel après 5 mois. Et on a même annoncé qu'elle allait avoir une nouvelle campagne de vaccination.
On sait qu'il est fort probable aussi qu'il y ait une nouvelle hausse de cas au cours des prochaines semaines et en particulier au cours de l'automne. C'est pour cette raison que la prochaine campagne de vaccination va être importante et particulièrement pour les personnes qui sont les plus vulnérables. Dès la semaine du 15 août, c'est bientôt, c'est dans une dizaine de jours, il y a une nouvelle dose qui va pouvoir être administrée aux personnes qui résident en CHSLD, donc en centre d'hébergement de soins de longue durée, et ceux aussi qui, tout de suite après, qui résident en résidence privée pour aînés, ce qu'on appelle les RPA.
Alors, soyons clairs, il y a une autre campagne de vaccination qui s'en vient pour l'automne. Est-ce que les experts estiment qu'on a bien géré cette dernière vague là, en misant seulement sur la vaccination?
Bien, selon l'épidémiologiste Nima Machouf, pas du tout. En fait, elle pense qu'on a des mesures barrières à remettre en place dès maintenant, parce que là, on laisse présager qu'il y aura encore une autre vague importante. On en parle beaucoup avec l'automne, quand les gens vont retourner à l'intérieur. Alors, elle dit pourquoi attendre? Il faudrait les remettre dès maintenant, ne serait-ce que pour donner un peu de répit en ce moment au réseau de la santé.
Il faudrait réintroduire le masque, surtout partout là où il y a des foules, partout là où il y a des rassemblements à l'intérieur. Il faudrait déjà le réintroduire. On n'a pas à attendre en septembre. Dr Boileau a dit, oui, on sait qu'en septembre, il va y avoir une autre vague. Pourquoi attendre alors? Alors, à mon avis, non, on n'est pas sur la bonne voie. Et maintenant, étant donné que depuis Omicron, les vaccins sont beaucoup moins efficaces qu'avant. Avant, ils étaient très efficaces et on pensait même pouvoir éradiquer la maladie. Mais maintenant, depuis Omicron, ce n'est plus le cas. C'est bien de se faire vacciner parce qu'il nous donne une certaine protection, mais la protection n'est pas énorme. Le masque protégerait plus.
Et autre sujet qui a été abordé aujourd'hui, Michel, c'est la variole simienne. Là aussi, on élargit la campagne de vaccination maintenant à tous les hommes qui prévoient avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, sauf évidemment les gens là, qui sont dans des relations avec une seule personne depuis une longue période.
Merci beaucoup, Fanny. Le Canada va former des militaires ukrainiens dans un pays tiers. La formation va porter sur l'utilisation des 4 obusiers M777 donnés par le Canada. Il sera aussi question de cyberassistance par le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada. Il s'agit de la 2e mission canadienne de formation pour aider l'armée ukrainienne depuis l'annexion de la Crimée en 2014. C'est un cauchemar, on peut dire, qui attend les automobilistes à l'automne à Montréal. Dès novembre, d'importants travaux vont entraîner un dépassement de coûts, oui, mais également une fermeture plus prolongée du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. En fait, 3 voies sur 6 seront fermées. Une voie seulement sera ouverte en direction de la Rive-Sud, et ça jusqu'en novembre 2025. Pour comprendre ce qui se passe, le porte-parole du ministère des Transports, Gilles Payet, est avec nous. Bonsoir, M. Payet.
Bonsoir.
Alors, les travaux ont déjà commencé depuis juillet 2020. Des entraves étaient prévues cet automne. Mais qu'est-ce que vous avez découvert qui font changer un peu les plans, là?
Bien, 2 choses. Il fallait refaire la protection incendie du tunnel pour la mettre aux normes actuelles. Et le procédé qui avait été envisagé ne fonctionne pas assez bien pour atteindre les hauts standards du ministère. Conséquence, il faut aller avec un autre procédé qui est de bétonner, ni plus ni moins, tout l'intérieur du tunnel ou des tunnels, des tubes. Alors ça prend beaucoup de machinerie spécialisée, beaucoup de temps. Évidemment,
et beaucoup d'argent.
Et beaucoup d'argent, ça vient avec.
Ça
on va avoir un beau tunnel flambant neuf pendant 40 ans.
900 millions de dollars de plus?
Estimé.
Oh, quand même.
Et ça comprend aussi les autobus gratuits qu'on va payer pendant tout ce temps-là.
Bon, parlons-en, là, parce que pour le quotidien des gens, ça va changer quand même quelque chose. Il y a environ 120 000 véhicules qui circulent dans le tunnel dans les deux directions là, chaque
tout
jour.
Confondu en
là, tout
moyenne.
Le monde va passer dans le même tube, là, c'est ça?
Exactement. Vous allez avoir 2 voies vers Montréal et 1 seule voie vers la rive sud. Pourquoi ce choix-là? Le tunnel est très occupé dans toutes les directions, que ce soit le matin ou le soir. On a calculé savamment que c'est plus avantageux de donner 2 voies vers Montréal et 1 seule vers la rive sud, parce que là, il va y avoir moins de monde qui vont attendre dans le tunnel. Alors, en faisant ce choix-là, ça va être plus fluide, en un mot.
Mais là, ça ne sera pas genre 2 voies le matin, 1 voie le soir. Ça va toujours être 1 seule voie pour aller vers la rive sud.
Oui, et après 1 an et demi, quand le tube direction sud sera réparé, on va faire exactement la même chose, bon, mais dans le tunnel neuf.
Est-ce qu'il y a des mesures d'atténuation qui vont être mises en place?
Il y en a déjà qui sont mises en place. Beaucoup de circuits d'autobus. Il y en a d'autres qui seront ajoutés. Ouais. Vous avez même des navettes fluviales. Il y a des bus gratuits. Évidemment, il y a le covoiturage et tout ce qui s'appelle accotement et voies réservées du côté de la rive sud. Covoiturage à 3 personnes. Il va falloir changer ses habitudes.
C'est un incontournable, là.
Pas le choix.
Ça va falloir s'armer de patience.
Oui,
il y a
la
des
patience.
Limites à la patience.
Il y a des limites au tunnel.
Oui. Donc, ça commence exactement...
En novembre.
En novembre.
La date précise sera annoncée dans les prochaines semaines.
Alors, on prépare. Vous nous le dites déjà des mois d'avance. Fait qu'il faut commencer à prévoir les alternatives. Monsieur Payet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bonne soirée.
La nouvelle d'hier, voulant que la journaliste de Radio-Canada, Martine Biron, se présente pour la CAQ, a surpris bien du monde, à commencer par la communauté journalistique. Pourquoi? Parce que, comme l'a mentionné notre collaborateur Yves Boisvert dans la presse ce matin, ça soulève des questions désagréables, oui, sur l'impartialité, sur l'indépendance entre les journalistes et le monde politique. Alain Saunier est professeur retraité en journalisme et ancien directeur général de l'information à Radio-Canada. Il est avec nous. Bonsoir, M. Saunier.
Bonsoir.
Comment avez-vous réagi d'abord à cette nouvelle-là hier?
Bon, c'est toujours un certain malaise de voir tout à coup les gens passer de l'un à l'autre en si peu de temps. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de transition. Le problème, c'est qu'il y avait personne qui n'avait été mise au courant, semble-t-il. Alors, ça nous oblige peut-être à exiger davantage de transparence de la part des journalistes.
Et vous avez connu ça, vous, parce que Bernard Drinville était un de vos journalistes lorsqu'il a fait le saut en 2007. Comme patron, comment on gère ça?
Ah ben, moi, j'étais choqué parce que Bernard avait fait une entrevue avec Bois-Clair, qui était le chef du Parti québécois, quelques jours avant d'annoncer qu'il faisait le saut en politique pour le Parti québécois. Et c'est clair qu'il n'y avait pas eu de transition. Donc, ce genre de situation-là, il faut absolument que, dès le moment où il y a une approche d'un parti politique, même si on n'a pas l'intention de faire le saut en politique, il faut en aviser son supérieur, il faut en aviser son patron, il faut en aviser son média. Et par ailleurs, le média pourra décider à ce moment-là qu'est-ce qui est la bonne solution, qu'est-ce qui est la bonne façon de gérer tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que c'est encore plus important lorsqu'il s'agit de gens qui couvrent la politique, que ce soit à Ottawa ou à Québec.
Et ça prend donc cette fameuse période tampon parce que on sait, tout le monde a le droit de se lancer en politique, là, mais quand on est journaliste puis qu'on a accès à des informations privilégiées, obtenues souvent sous le couvert de l'anonymat, là, le fameux off the record qu'on entend souvent dans notre milieu, là, on comprend là, les réactions aujourd'hui parce qu'on peut penser, on pense, là, on ne sait pas, là, mais peut-être que Martine Biron a des informations assez privilégiées de la part de politiciens, d'élus, sur les stratégies de campagne des autres partis là, pour l'automne.
Oui, c'est vrai, mais moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est la perception que le public aura de ce genre de situation-là. Parfois, certains disent qu'il y a des relations trop incestueuses entre les journalistes qui couvrent la politique, que ce soit à Québec ou à Ottawa, avec les partis politiques eux-mêmes. Peut-être que ça nous obligerait à faire un examen de conscience, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir de meilleurs garde-fous. Yves Boisvert avait allé un peu dans la même direction dans la presse de ce matin.
On a lu sur vos lèvres un peu parce que le son a coupé. Là, vous avez l'impression que c'est ce qu'on devrait faire, donc mettre des garde-fous. C'est à chacune des entreprises de presse, j'imagine, d'établir les règles. Monsieur Saunier, c'est tout le temps qu'on a. On va attendre l'annonce officielle également de Mme Biron et voir un peu ses explications. Il y aura certainement merci matière à analyse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est au tour des 13 fédérations provinciales de hockey de faire pression sur Hockey Canada. Elles ont envoyé une lettre aux dirigeants pour exiger des comptes de l'organisation et menacent maintenant de suspendre le versement des cotisations si elles n'obtiennent pas des réponses satisfaisantes. Notre collaborateur Ray Lalonde est avec nous. Bonsoir, Ray.
Salut, Michel.
Alors, quand on sait que chaque fédération est indépendante, le fait qu'elles s'unissent comme ça, ça envoie tout un message.
Oui, c'est important parce que la gouvernance du hockey au Canada, c'est Hockey Canada, mais les provinces exécutent les stratégies d'Hockey Canada, ont leur propre stratégie aussi. Puis il y a des provinces, évidemment, qui contiennent plus de volume, dont l'Ontario et le Québec. Alors, elles sont influentes. Mm-hmm. Et c'est surtout l'importance d'être solidaires, ensemble, les 13. Comme ça, on met plus de pression sur Hockey Canada. Ce qu'ils veulent, Michel, ils veulent avoir des comptes. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le plan d'action, c'est quoi les mesures qui ont été prises, quels sont les détails de ces incidents-là, quels sont les résultats des différentes enquêtes. Mm-hmm. Parce que Hockey Canada a joué au cachotier avec tout oui. le monde. Pas juste avec les autorités, mais avec les fédérations membres.
Est-ce qu'on peut penser aussi que c'est une opération de relations publiques de la part des fédérations?
Bien, un peu, parce qu'ils doivent tout de suite se dissocier de l'implication potentielle dans des incidents comme ça. C'est sûr qu'ils ont une relation avec Hockey Canada, mais ils veulent pas qu'on associe Hockey Québec, par exemple, ou d'autres fédérations, avec ces incidents, ces mm-hmm. gestes, ce comportement-là. Donc, on met beaucoup de pression pour exiger, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a des redevances, des formes de cotisation, Michel, deux fois par année, qui sont oui, payées à Hockey Canada par les fédérations qui aident à financer Hockey Canada.
Et qui viennent de parents
et
également,
qui viennent d'enfants. Et, et d'inscriptions pour les jeunes.
Et on sait à quoi l'argent a servi.
Tout à fait.
On n'en revient pas encore. On change de sujet, on va parler de football maintenant parce que la NFL a décidé de faire appel de la suspension de seulement 6 matchs imposés à Deshaun Watson, le quart arrière, qui aurait harcelé et agressé 24 femmes. Quand on regarde l'ampleur des crimes qui auraient été commis, 6 matchs, la NFL n'avait pas vraiment le choix là, de revoir ça, non?
Non, il n'y avait pas le choix. Puis pour rappeler aux gens, Deshaun Watson, c'est un choix de première ronde en 2017. Puis au cours de la saison 2019 et 2020, Michel, dans des cas de massothérapie, comme client, il aurait agressé jusqu'à 24 femmes. Puis en plus, l'équipe dans laquelle il évoluait, les Texans d'Houston, ont réglé hors cours, eux, avec 30 femmes, toujours dans le dossier de Deshaun Watson. Fait qu'il y a beaucoup de femmes, des douzaines. Ce qui est clair, c'est que son comportement a incité les Texans à l'échanger au printemps dernier, aux Browns de Cleveland. Puis les Browns de Cleveland ont récompensé avec un contrat garanti, le plus haut total de l'histoire de la NFL de 230 millions de dollars, Michel. garanti, en sachant que cette année seulement, en prévision d'une suspension possible, son salaire était limité à 690 000, mais à partir de l'an prochain, 46 millions par année. Donc, c'était un peu arrangé tout ça, cette histoire-là. Mais ce qui est clair, c'est que la décision cette semaine d'une juge indépendante de le suspendre pour seulement 6 matchs n'a pas fait l'affaire de personne. C'était même scandaleux.
Et ça amène la question, est-ce qu'il n'y a pas un double standard? Parce qu'il y a des joueurs moins connus qui ont eu des suspensions plus importantes pour peut-être des actions moins importantes.
Beaucoup moins graves. Mais Deshaun Watson, c'est un quart arrière. On lui a donné un gros contrat. Puis les quarts arrière sont très importants dans la NFL. Mais je donne l'exemple de Calvin Ridley, qui est un receveur de passe, Michel. Et lui avait fait un pari sportif légal, mais sur le produit de la NFL en 2021. Ils l'ont suspendu pour une année complète, y compris 11,6 millions de dollars en perte de salaire pour un jeune qui avait un pari de 1 500 $. Tu sais, quand tu regardes la gravité de 24 accusations, 23 ont été réglées hors cours jusqu'à maintenant. C'est tout du côté civil pour le moment. Mais Deshaun Watson, c'est embarrassant, c'est scandaleux pour l'image de la NFL. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour imposer une sanction supplémentaire.
Merci, Ray. Bonsoir, Sabrina.
Salut, Michel.
Dossier de la fonderie Orne, encore du nouveau. Il y a le ministre de l'Environnement qui a fait une annonce aujourd'hui.
Oui, Benoît Charrette qui a annoncé, en fait, un petit peu plus tôt aujourd'hui, la nomination d'une administratrice d'État pour chapeauter, en fait, ce dossier-là. Alors, le gouvernement qui répond à la demande de la mairesse de Rouyn-Noranda. L'administratrice, ça va être Hélène Proto. Elle aura pour mandat d'assurer le suivi entre les différents partis qui sont impliqués.
Et il y a une joueuse de basketball américaine qui a été condamnée à 9 ans de prison en Russie.
Et ça, c'est toute une histoire. Je sais qu'on la suit quand même depuis déjà plusieurs mois parce qu'elle avait été arrêtée du côté de Moscou au mois de février dernier parce qu'elle avait une vapoteuse qui contenait de l'huile avec du cannabis. C'est ça, exactement. Et finalement, bien, son procès s'est terminé relativement rapidement. Brittany Griner, qui a été reconnue coupable de possession et trafic de drogue, aujourd'hui en Russie, elle a été condamnée à 9 ans de prison. Et là, ce qu'on va essayer de voir, c'est si on peut procéder peut-être à un échange de prisonniers entre Moscou et Washington.
À suivre. Et ce soir, au fil 22, tu vas recevoir la chef du Parti libéral, Dominique Anglade.
Oui, ce sera pour parler des violences armées qui sont survenues au cours des derniers jours. Ouais. On sait ces 3 meurtres qui sont survenus.
Merci beaucoup. On regarde ça. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve demain.